est l'invité de la semaine et l'un des observateurs les plus avisés du monde judiciaire, à la radio, à la télé, à l'écrit et bientôt sur sa chaise. Il nous plonge dans des affaires où le commun rencontre le hors norme, l'exceptionnel, où l'âme humaine sombre parfois dans l'inconcevable. Vous l'avez reconnu. Bonjour Jacques Pradel.
Bonjour.
Merci d'être sur le plateau.
Et bonjour.
Vous avez quitté votre île Corse ?
Ben oui, bien sûr, depuis quelques jours.
Merci beaucoup.
Parce que...
Je précise, en dehors de la Corse que vous venez de
Jacques
publier...
Pradel, comme nous, aime la Corse.
Et écoutez, c'est une bonne nouvelle. Auteur de L'univers du crime, paru aux éditions du Rocher. Je précise également, parce que c'est important et je sais que ça intéresse beaucoup des téléspectateurs d'Affaires suivantes, vous allez participer les 12 et 13 juin prochains à un événement, événement Univers du crime. C'est au cinéma CGR de la Porte des Lilas, banlieue S. C'est un événement qui sera retransmis dans 20 cinémas en France. Merci d'être avec nous dans Affaires suivantes. Nous avons lu avec Dominique, avec attention, votre ouvrage. On y croise, ce qui est très intéressant, ce sont les formats courts, des histoires très courtes à chaque fois. Oui. On y croise beaucoup de profils différents, Zola, Agatha Christie, Yann Piat, Gianni Versace, Marie Bénard. Comment vous avez sélectionné, quand on a votre connaissance du monde judiciaire, comment vous avez sélectionné ces affaires ? Est-ce qu'il y avait un critère particulier ?
Non, tout simplement parce qu'elles correspondaient à ma démarche, si vous voulez, et aussi qu'elles m'avaient particulièrement frappé, soit à cause des circonstances du crime, soit à cause de la personnalité de l'auteur, homme ou femme, ou de la victime. Et ma démarche, c'est plus le décryptage que le macabre. Mmh. Je suis pas attiré du tout
non,
par le sang,
la violence, il y a pas de
etc. Donc moi, ce qui m'intéresse à la fois, c'est trouver le pourquoi du comment, raconter l'enquête, le procès, s'il en général, ce sont des affaires qui ont débouché sur un procès, et surtout, surtout penser aux familles de victimes qui, elles, prennent toujours perpète, hein, si
c'est,
vous me passez
l'expression. C'est ce qu'on entend régulièrement. Ouais.
Voilà. C'est du chagrin à perpétuité. Et en même temps, ce qui m'intéresse aussi, c'est plus le crime de monsieur et madame tout le monde. C'est des affaires à la Simenon, souvent. Mais parfois, également, du terrorisme, comme l'attentat au gaz sarin dans le métro
dans
de
le
Tokyo.
Métro de Tokyo hein. 8 morts, c'est ça combien? J'ai noté. 13 morts.
13 morts. Oui, 13 morts et
des centaines.
Plus de 6000 blessés. Ouais. Voilà. Et surtout, un projet que le gourou de la secte avait, c'était de faire une véritable attaque sur Tokyo avec, on parlait pas encore de drones, mais lui avait préparé des hélicoptères télécommandés pour faire à peu près entre la police japonaise a fait le calcul, ça aurait été 4 à 5 millions de victimes.
Ouais. Vous dites l'univers du crime est un univers parallèle.
Oui.
C'est quoi ça ?
Alors, c'est un univers parallèle, c'est un peu l'inverse de notre univers. C'est-à-dire que toutes nos valeurs sont inversées. Tu ne tueras pas, tu tueras. Tu ne convoiteras pas l'argent de ton voisin, eh ben si.
Le crime ne paie pas,
alors,
le crime paie.
Le crime ne paie pas, d'une manière générale, ça n'a pas changé, parce que très souvent... soit il y a une enquête excellente de police ou de gendarmerie, soit parce que la police scientifique, général Daoust est là pour témoigner, a fait des progrès considérables, soit parce qu'il y a le grain de sable, c'est-à-dire le petit détail qui, en fait, va livrer l'assassin...
Je ne suis pas d'accord avec vous, Jacques. Parce que je dis parfois ça, c'est une plaisanterie, mais je crois qu'on peut se le permettre. On se détend un peu dans l'affaire suivante à la fin de l'émission, mais le crime paie, puisque vous et moi, et Ronald maintenant, qui nous a rejoint, on envie du crime.
Oui, mais enfin...
Quelque part, non mais... On le dit objectivement, on le dit un peu sur le ton de la plaisanterie.
Moi, je sais pas vous, mais en ce qui me concerne, je n'ai tué personne.
Mais on raconte des histoires de crimes, Jacques.
Oui, bien sûr.
On vit avec ça depuis toujours.
Bien sûr.
Est-ce que vous pouvez, moi, je me suis arrêté parce que je ne savais rien de la mort de Zola. Pour être totalement franc,
c'est une affaire extraordinaire.
Non mais c'est absolument. Alors racontez-nous cette affaire de Zola où on se dit il a été empoisonné avec sa femme qui elle s'en sort parce que cheminée mal bougée. Et puis en fait c'est quand même au final ça reste une histoire de cheminée mais pas comme on l'imagine.
Ça pourrait être un crime parfait parce que on en a jamais eu la preuve. Ce qu'on sait c'est que Émile Zola est mort il avait 62 ans.
Je me rappelle plus de son âge.
Donc à la suite de ce qu'on appelle un problème domestique, c'est une cheminée bouchée et
une intoxication au monoxyde de carbone.
Oui, c'est ça. Voilà, ce qu'on dit simplement.
Ouais. Avec sa femme Alexandrine, ils meurent tous les deux.
Oui. Non.
Non, elle ne meurt pas.
Elle survécut parce que dans leur chambre à coucher, le lit était légèrement surélevé sur une sorte d'estrade en bois. Émile Zola est tombé, lui, il a eu un malaise. Il est tombé au sol, là où la concentration d'oxyde de carbone est là, est maximum. Et Alexandrine était sur le lit. Bon. Et donc, elle a témoigné. On sait ce qui s'est passé dans la nuit. Alexandrine a dit, voilà, on s'est trouvé très mal tous les deux, on a eu des maux de tête, on a vomi.
Ah, je l'ai vu faire
et
un malaise,
on a pensé à une intoxication alimentaire. Et Zola lui a dit, on verra demain.
Ça ira mieux demain, on en parlera.
Ça ira mieux demain.
C'est génial.
Alors, pendant 50 ans, c'est la version officielle. Exactement. Oui, il faut dire que l'enquête de police du commissariat Saint-Georges n'a pas été formidable.
Elle est saccagée. Vous parlez d'une enquête saccagée.
Oui, oui. Parce que c'est le cas.
Bâclée.
Oui, bâclée, pas saccagée, je suis d'accord.
Marion Bornier, notre... Bon.
Mais, donc,
5 ans en passe.
C'est la vérité.
Jacques me dit que c'est bâclée.
Et puis, pas saccagée. En 1952, il y a le cinquantenaire de la mort de Zola. Et il y a un journaliste de Libération, et Libération première manière, c'est Libération qui avait été fondée par Dastier de la Vigerie et les résistants, d'où le nom, Libération. Et ce journaliste fait une enquête sur... il essaye de retrouver des gens qui ont quelque chose à dire sur l'affaire Zola, sur la mort de Zola. Et il rencontre, au cours de son enquête, un pharmacien de Sarcelles qui a appartenu à une ligue d'extrême droite antisémite qui s'appelait la Ligue des Patriotes.
Parce que Zola, j'accuse évidemment Capitaine Dreyfus, et évidemment il y a tout ce conflit à l'époque.
Il faut dire que Dreyfus était l'un des hommes les plus à la fois admirés pour son œuvre et les plus détestés par les ligues d'extrême droite et antisémites.
Mais qu'est-ce qui aurait pu lui arriver alors? On a des éléments pour dire que la cheminée n'était pas bouchée, que c'est pas une intoxication au monoxyde, alors?
La cheminée a été bouchée si l'on en croit les confidences qu'a recueillies ce pharmacien, qui, dans la même Ligue des Patriotes, il y avait un monsieur qui était fumiste, comme on disait, au début du siècle, et qui travaillait sur le toit de l'immeuble d'Émile Zola. Et donc, il a bouché la cheminée. Alors, dans son langage, il a dit « j'ai enfumé le cochon ».
Voilà.
Parce que il recevait des lettres anonymes, des petits cercueils par la poste. Enfin, c'était violent quand même à l'époque. Et le lendemain, quand tout le monde a parlé de la mort d'Émile Zola, il a débouché sa cheminée puisqu'il travaillait sur le toit de l'immeuble.
Il faut qu'on avance parce qu'on a d'autres questions à vous poser. Moi, je voudrais, en lisant le livre avec Ronald, on s'y c'est quand même incroyable. L'histoire de Gianni Versace, le couturier, qui meurt aux États-Unis et le type qu'il tue a tué 4 autres personnes.
Oui, absolument. Et ne connaît pas Versace. C'est un tueur en série qui s'appelle Cunanan, qui est en cavale au moment où Versace arrive dans sa maison de Miami Beach.
Ouais.
Il y est venu plus tôt cette année-là, parce que je crois que sa mort remonte au 15 juillet. Il y est allé parce que ses médecins lui ont dit de se reposer. On venait de lui trouver un cancer dans le conduit auditif. Bref. Et le matin, Versace allait au bistrot du coin où on trouvait la presse italienne et la presse internationale. Donc, il prenait son petit café vers 8h30. Puis ensuite, il faisait 150 mètres pour retrouver sa maison. Et là, sur ce trottoir, sa route a croisé celle de ce tueur en série qui n'a pas essayé de le voler, d'ailleurs, c'est ça. Alors, on
peut-être parce qu'il ne savait pas qu'il était aussi.
Parce que Versace est mort d'une balle tirée dans la nuque.
Deux balles de calibre 40, vous écrivez ça. Deux balles de calibre 40.
Et la balistique a montré que cette même arme avait déjà tué 4 fois.
L'arme qu'utilisait Andrew Cunanan, qui va tuer Versace, et qui n'est pas n'importe qui, c'est un beau garçon homosexuel qui a déjà tué dans les... On lui court après tous les États-Unis de recherche.
Et puis, il a fini par tirer sur tout ce qui bougeait. Et il avait le FBI à ses trousses. On pense qu'il n'a même pas reconnu Versace, puisque les témoins ont dit, c'est un jeune homme, il a poussé Versace et il a tiré. Voilà.
Il nous reste 2 minutes, vous choisissez, faites votre choix. Choisissez-nous une affaire, vous avez 2 minutes pour la raconter et nous faire vibrer.
Une des histoires les plus récentes, malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler très longuement, mais c'est un peu un signe des temps, parce que moi je pense que chaque affaire criminelle révèle quelque chose sur l'état de la société, et quelquefois tire des sonnettes d'alarme. En Angleterre, dans la région de Manchester, en 2023, 2 adolescents de 16 ans, un garçon et une fille, tuent. C'est un féminicide, c'est un transféminicide, comme l'a appelé la presse anglaise. C'est-à-dire qu'ils avaient une petite amie, une amie intime, de collègue, une autre collégienne qui était transsexuelle, qui avait le même âge qu'eux. Ils l'ont tuée, mais c'est un assassinat. C'est-à-dire que ça faisait des mois qu'ils avaient décidé de tuer cette jeune femme. Voilà, ils ont été condamnés à perpétuité, et ce qui est rarissime en Grande-Bretagne, le meurtre a été tellement épouvantable que la justice britannique a décidé de donner les noms. En général, on donne même pas le nom des accusés, on met des initiales. Et là, pour des mineurs de moins de 16 ans, c'est extraordinaire.
Alors, voilà.
Il y a des associations de lutte contre la transphobie et contre les crimes homosexuels qui ont relevé 250 faits comparables dans l'année 2024.
Ah voilà, on a presque terminé. On aurait aimé que vous nous parliez du dépeceur de Mons.
Oui,
incroyable.
Vous reviendrez, on a
20 secondes. Il y a Marion Bordier qui me dit à l'oreille, c'est fini.
En 20 secondes, on peut dire que le tueur qui n'a jamais été identifié avait un humour macabre incroyable, puisque les sacs poubelles dans lesquels on a retrouvé les morceaux de corps, 18 sacs poubelles, étaient déposés rue du Dépôt, sur les quais de la rivière de le canal de la Haine.
Il faut le lire. Et il y a Bruno Sulac aussi.
Merci beaucoup.
Bruno Sulac, voyou à l'ancienne.
Une prochaine fois, vous reviendrez. Merci beaucoup, Jacques Pradel.
Vous donnez un rendez-vous au mois de juin, là, vous recevez...
Oui, 12 et 13 juin.
Au cinéma CGR Port-de-Villa.
Alors, Jacques, il y a Marion Bordier, notre chef d'édition, Elisa Trana, notre journaliste qui fait tous les sujets, et Sabina Iklazova, notre programmatrice, qui aimerait venir. Il faut
vous inviter.
Elles sont invitées,
évidemment.
Nous poursuivrons cette conversation.
Et vous aussi, vous deux.
Merci.
On viendra.
Merci beaucoup, Jacques Pradel. Merci beaucoup, Dominique.